Quelques minutes de retard. Je passe donc tout de suite la parole à André Rousseau de l'Université de Lille 3, qui va nous parler de la dette de Karl Bühler à l'égard de ses deux prédécesseurs, Philippe Wegener et Alan Gardner.
Bon, je corrige immédiatement le titre. J'ai enlevé le mot dette et j'ai tout simplement intitulé Karl Bühler et ses prédécesseurs. Et comme je n'ai pas d'exemplier, alors je vous prie de bien noter les dates. Philippe Wegener, 1848-1916, c'est un auteur qui est quasiment inconnu en France. Et Alan Gardner, 1879-1963, c'est-à-dire les dates exactes de celles de Bühler. Alors, comme Wegener, le texte de Wegener n'existe dans aucune bibliothèque universitaire française, à l'exception de la BNUS de Strasbourg, mais en 1885, la bibliothèque de Strasbourg, c'était la Reichsuniversität. Donc, ce n'est pas un achat qui a été fait par des Français. Donc, il a fallu que je me procure l'ouvrage pour le modique prix de 110 euros. Je signale qu'il en existe une traduction anglaise que je me suis procurée au prix de, tenez-vous bien, 1,50 €. Bon, et puis voilà l'exemplaire de Gardner que je possède également dans la traduction qu'en a donnée ma collègue et amie Catherine Douet. Pour bien comprendre la visée de la Sprachtheorie de Bühler, alors je vous dirai encore que depuis le temps que je pratique Bühler, eh bien, cet ouvrage en allemand m'accompagne depuis toujours et vous voyez qu'il a été largement pratiqué. Pour bien comprendre la visée de la Sprachtheorie de Bühler, il est nécessaire de replacer cet ouvrage dans la démarche intellectuelle de son auteur, spécialiste de la psychologie de la pensée. Les recherches de Bühler présentent en effet un enchaînement rigoureux. Après avoir formulé un diagnostic sans appel dans la crise de la psychologie en 1926, il essaye de trouver du côté de la linguistique une solution à cette déficience par une publication personnelle, la Sprachtheorie, qui a été annoncée par deux publications antérieures, l'axiomatique en 1933 et la théorie de l'expression en 1933. La théorie de l'expression est également introuvable dans une bibliothèque française, une bibliothèque universitaire. On peut encore se le procurer d'occasion. Ainsi, Karl Bühler cite utile sa Sprachtheorie, qui est le point culminant et hélas quasiment final de son œuvre, parce qu'il l'a écrite en 1934 et en 1936, il s'est vu contraint, à cause des origines juives de son épouse, de fuir aux États-Unis, où il est devenu quasiment un anonyme. Alors, cette œuvre se situe au carrefour de deux disciplines fondamentales, la psychologie telle qu'il la conçoit et la pratique. Elle est en effet très différente de celle d'un Wilhelm Wundt. La Sprachtheorie est en somme une réponse à Die Sprache de Wundt, aux deux tomes de la Sprache en 1900. Et d'autre part, la linguistique, telle qu'il l'envisage, de manière large, englobante, comme science du langage et des langues, enrichie par une dimension expérimentale, l'Erlebnis. Nous reviendrons sur cette notion. Dans cet exposé, je me fixe pour objectif de rééquilibrer les emprunts faits par Bühler à des spécialistes de son époque. Husserl n'est pas le seul à considérer. Cela a été fait dans certains ouvrages. Il faut aussi tenir le plus grand compte de Wegener et de Gardner. Après avoir brièvement rappelé les principales données connues au départ, il convient d'examiner dans une seconde partie quels sont les développements originaux contenus dans les ouvrages de Wegener et de Gardner, et pouvoir ensuite déterminer de quelle manière Bühler a pu utiliser, abandonner ou améliorer les apports spécifiques de ses deux prédécesseurs. Il nous semble tout d'abord nécessaire d'insister sur la démarche intellectuelle exigeante de Bühler, fondée sur une méthodologie nouvelle, hardie, qui concerne la saisie de la pensée et la compréhension de leurs mécanismes, réalisée grâce à une intégration dans le tissu des expériences vécues et l'assignation logique à une place dans le processus global. Cette démarche s'effectue en trois étapes, une approche psychologique, voire physiologique des faits de pensée, qui mène à une description nouvelle, introspective. Deuxièmement, un examen des manifestations linguistiques de la pensée, car la langue relève fondamentalement de la Darstellung. Alors ici, je voudrais faire une petite parenthèse. Il a été question de Darstellung et de Vorstellung tout à l'heure. Eh bien, les deux mots allemands ont une signification. Que signifie Darstellung ? Stellung, c'est le fait de poser quelque chose. Et Dar, c'est une forme casuelle de da, forme casuelle ancienne. Ça signifie tout simplement le fait de poser là. Vorstellung, eh bien, c'est vorstellen, placer devant soi. Donc, on voit bien qu'à ce moment-là, que la Vorstellung est individuelle. Il y a aussi une interprétation, je reviens à mon texte, scientifique des résultats obtenus, qui est nourrie principalement des doctrines de Kant et de Husserl. Comme pour Wegener, le point de départ de Bühler est, je cite, « l'acte de parole concret et bien développé, accompagné, je cite dans ma traduction, accompagné des circonstances de la vie dans lesquelles il apparaît d'une manière à peu près régulière. » Bühler, qui est resté très longtemps un inconnu en France, bien qu'il ait été le premier à proposer une théorie de la déixis et des déictiques, incomplète certes, car il y manque les morphèmes temporels, mais fondée sur le fonctionnement du langage. On peut penser que dans ce secteur pionnier, il a été pillé par Benveniste, qui ne le cite jamais. C'est un petit peu l'habitude de Benveniste, hein. Pensons aussi aux recherches d'Emmanuel Laroche, hein, qui était ici pendant longtemps. Il a été tellement occulté que dans un ouvrage intitulé « L'énonciation de la subjectivité dans le langage », publié en 1980 par Catherine Kerbrat, Kerbrat Orecchioni, le nom de Bühler n'apparaît même pas. Bühler est à son époque présent sur plusieurs fronts, car il offre une personnalité éclectique qui touche à trois domaines principaux, la philosophie, les relations avec Wittgenstein sont indéniables, Kevin Mulligan en parlera, je pense, en psychologie, où, comme je l'ai dit, il y a la querelle avec Wundt l'a rendu célèbre, et en linguistique, enfin, où la Sprachtheorie est une sorte de somme linguistique qui essaye de rendre compte du fonctionnement de la communication verbale. Quelles sont les positions de Bühler ? Il est absolument nécessaire de rappeler les grandes lignes de la Sprachtheorie. Le titre choisi est très large. Il faut comprendre qu'il englobe Sprache en allemand, qui peut être ambigu, à la fois langage et naturellement la langue, comme le démontre le schéma qui figure dans son ouvrage, à la page 40, vous savez, la division en quatre domaines, en ayant croisé sa taxinomie et le résultat du croisement d'une opposition à deux fois deux termes, l'une saussurienne langue-parole, l'autre provenant de Humboldt, Ergon, Energeia. Alors, je crois qu'il faut absolument respecter les composés qui s'y trouvent. Dans la colonne de gauche, nous avons deux composés avec Sprech, et dans la colonne de droite, deux composés avec Sprach. Et là, il y a une opposition très nette en allemand. Alors, ce tableau a donné lieu à des interprétations divergentes, à des conflits multiples dans lesquels je n'entrerai pas. Contentons-nous simplement de remarquer que Bühler propose ici de réaliser une sorte d'équilibre pondéré, ou plutôt un rééquilibrage, entre langue et parole, pour reprendre les termes de Saussure. Quels sont les acquis de Bühler? Ils sont nombreux, certains originaux, d'autres partagés avec quelques spécialistes, d'autres encore empruntés, mais toujours avec une note personnelle. Cherchant à définir les domaines de la langue, il évite soigneusement la division traditionnelle en phonologie, morphologie, syntaxe, lexique, et c'est là que se manifeste son originalité principale, je crois, pour la postérité, celle d'avoir distingué entre le champ monstratif, Zeigfeld, et le champ symbolique, Symbolfeld, en proposant la première véritable théorie de la déixis et des déictiques, mais je pense qu'il n'a peut-être pas assez insisté sur la spécificité des déictiques dans leur fonctionnement, notamment par rapport à l'objet, et quel que soit cet objet. En effet, tout signe linguistique est composé, et là je rappelle des banalités, d'insignifiant, d'insignifié, est ce que j'appelle un référé, et non pas un référent, alors que le déictique ne comporte à mon sens que deux, insignifiant et indésigné. Alors, la question se pose de savoir si un déictique possède ou non un signifié. Un exemple, je pense, aidera à mieux comprendre la réalité du problème. Un déictique comme ici, d'en vient ici, désigne fondamentalement le lieu du locuteur, espace abstrait et immatériel, on ne peut pas lui assigner de dimension, mais ici également la faculté de fonctionner comme anaphorique, et peut par exemple renvoyer au tableau si c'est un instituteur qui s'adresse à un élève. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que le déictique soit comme désignation directe, soit en anaphore. Il semble que le déictique, au contraire, soit dénué, de signifié propre. Je rappellerai également le caractère indispensable des déictiques à toute communication verbale, comme cela a été démontré par le logicien Yeshua Barilel en 1954, dans un article assez célèbre. La découverte essentielle de Bühler reste incontestablement, à mon sens, d'avoir mis à jour l'existence première de schèmes syntaxiques à une époque où l'on se contentait encore d'identifier les classes de mots. Je renvoie par exemple à Franz Miklosic. C'est une découverte faite dès 1908 qui concorde avec le schématisme de Kant. Mais pour éviter les malentendus, il faut ajouter que pour Bühler, si le schème syntaxique, totalement ou partiellement vide, précède la formulation proprement dite et guide d'une manière identifiable la parole factuelle, je cite Bühler, il est en quelque sorte concrétisé aussi par le guidage matériel de la pensée énonciative. C'est une autre citation de Bühler, et je pense qu'il faut traiter les deux en même temps. La méthode d'analyse introspective avec un observateur extérieur qu'a préconisé Bühler apparaît dans la Sprachtheorie sous l'étiquette de Erlebnispsychologie, du vécu, ouvrant naturellement la voie à une Erlebnispsychologische Interpretation. Cette introspection, couverte par le terme d'Erlebnis, apparaît au cœur des démonstrations essentielles. Elle apparaît au moins 5 ou 6 fois, Bedeutungserlebnis, Vorstellungserlebnis, etc., 5 ou 6 fois dans le texte. L'éclectisme est indispensable à la nature des recherches que conduisait Bühler sur le fonctionnement et les lois de la pensée. Cette Denkpsychologie, c'est une des formes de ce que l'on appelle aujourd'hui la psychologie cognitive. On mesure mieux le caractère pionnier des recherches de Bühler. Ses relations étroites avec Gardner. Nous savons que Bühler et Gardner ont été en relation épistolaire assez suivie et qu'il existe même des lettres encore inédites de cette correspondance. J'en ai certaines directement sous le coude ici. D'ailleurs, Bühler évoque leur rencontre dans son texte et parallèlement, Gardner le fait de même dans sa Theory of Speech and Language. Il dit notamment ceci, je cite Gardner, j'ai été conforté de façon inattendue dans mon analyse lors d'une conférence récemment donnée à Londres par le professeur Karl Bühler de Vienne, les 4 facteurs qu'il a inscrits au tableau. 1. Locuteur. 2. Auditeur. 3. Choses auxquelles il a fait référence. Et 4. Matériaux linguistiques sont en effet précisément ceux dont j'avais déclaré 10 ans plus tôt que le rapport mutuel constituait tout le mécanisme du langage. Alors, ces deux auteurs ont une source commune, à savoir Philipp Wegener. Le mot de prédécesseur que j'ai employé ne désigne pas ici des générations nettement antérieures, car on voit bien que les trois auteurs ont vécu en commun une période de travail qui s'étend, grosso modo, des années 1900 à 1915. Les relations entre les ouvrages des trois auteurs cités dans mon titre et que je viens de rappeler sont très étroites. Il y a de nombreuses citations, Bühler évoque Gardiner dans les passages les plus importants, cite très fréquemment, abondamment Wegener, et de son côté, Gardiner dédie son ouvrage à la mémoire du, je cite, professeur docteur Philipp Wegener, un pionnier de la théorie linguistique. Alors, je passe au deuxième point de mon exposé. Quelles sont les caractéristiques essentielles des travaux de Wegener et de Gardiner? L'apport original de Wegener. Wegener a choisi en 1885 pour titre de son ouvrage, je traduis, « Recherche sur les questions essentielles de la vie du langage ». Untersuchungen über die Grundfragen des Sprachlebens. C'est une formule qui rappelle volontairement certainement, le livre de William Dwight Whitney, The Life and Growth of Language, publié en 1875. Il faut savoir que Saussure, qui faisait alors ses séminaires à l'École des hautes études, a consacré précisément en 1885-86 un de ses séminaires à l'interprétation d'Ulfilas, hein, c'est le nom qu'il donnait à Ulfila, l'évêque d'Ego, ce qui est attendu, hein, puisque ça faisait partie de son travail, de son contrat, dirais-je, auquel il ajoute ces quelques mots dans l'annuaire de l'EPHE. Généralité sur la méthode linguistique et la vie du langage. Tiens, tiens. Lui qui était abonné à la revue Hélas éphémère de Franz Teschmer, hein, qui a disparu avec son auteur, hélas, en 1891, ne pouvait ignorer la publication de l'ouvrage de Wegener, dont précisément Teschmer avait fait un compte-rendu dans le numéro 3. L'apport de Wegener est contenu essentiellement dans deux publications, les Grundfragen, 1885, et un article posthume, Der Wortsatz, le mot-phrase, en 1920. Alors qu'il est mort, je le rappelle, en 1916. Vous voyez que c'est un article posthume et posthume de plusieurs années. Pour lui, pour Wegener, la linguistique a un double objet. D'une part, je cite, l'activité de la parole, Tätigkeit des Sprechens, et d'autre part, la langue en tant que moyen de communication bien établi, festes Verkehrsmittel. Il faut voir dans la langue le produit, je cite encore, psychophysique de la vie de l'homme en communauté. Dans tout acte de langage, le locuteur a des visées, des intentions, de même qu'il est responsable des paroles adressées à l'auditeur. Le premier grand mérite de Wegener, non universitaire, hein, voilà pourquoi j'ai dit SIC tout à l'heure pour professeur, mais seulement directeur d'établissement secondaire à Greifswald, qui avait soutenu une dissertation sur un sujet de philologie gréco-latine à Berlin en 1871, a été de lancer des recherches théoriques au moment même où triomphait l'historicisme total des néo-grammairiens, dont je rappelle ici un des principes directeurs sous la plume de Hermann Paul dans les Principien. Je traduis. Ce que l'on tient pour une étude non historique et pourtant scientifique de la langue n'est au fond rien d'autre qu'une étude historique imparfaite, soit par la faute du descripteur, soit par la faute des matériaux d'observation. Il faut ajouter que Wegener a obligé le même Hermann Paul, et je pense que ce n'est pas un mince mérite, à réviser certains passages de son texte dans les éditions ultérieures des Principien. Et Paul reconnaît une influence de Wegener sur certains passages de son ouvrage. Wegener écrit d'ailleurs à ce sujet dans l'article Der Wortsatz, publié seulement en 1920. Paul avait introduit dans la troisième édition des Principien le point de vue de l'interaction dans son développement sur le changement sémantique et l'étude de la phrase. La seconde originalité de Wegener a consisté à centrer ses recherches sur deux questions dont chacune avait fait l'objet de conférences antérieures. Voilà pourquoi il y a deux grandes parties dans cet ouvrage. La première concerne les aspects de la vie du langage, considérés notamment dans sa fonction dialogique. Et la seconde, comment comprendre le langage met en jeu directement l'auditeur qui n'est dorénavant, hein, comprendre, verstehen, qui n'est dorénavant plus réduit à un rôle purement passif. On peut affirmer que Wegener a renouvelé la théorie linguistique en allant à contre-courant, en mettant en avant l'action, Handlung, par le langage qui est action, l'homme cherche à réaliser un but. C'est aussi la raison pour laquelle Gardiner lui dédie son ouvrage. Wegener a été d'abord reconnu en Angleterre par Malinowski, Gardiner et puis quelques autres auteurs moins connus. Les rapports, la position de Wegener par rapport à la psychologie du langage. Wegener appréciait beaucoup Steinthal, hein, qui avait publié en 1855 un ouvrage extrêmement important, et il a puisé quelques éléments chez Hermann Paul. En revanche, il critique ouvertement Wundt, Wilhelm Wundt, auquel il reproche, de n'avoir pas su découvrir les vraies lois psychiques de la vie sociale. Wundt voulait promouvoir une Völkerpsychologie, psychologie des peuples. Et surtout, celle régissant, il n'a pas découvert non plus, selon Wegener, les lois régissant la vie du langage, les lois de l'échange. Et troisièmement, il lui reproche enfin de ne prendre en compte que l'individu isolé, oubliant totalement la relation de réciprocité dialogique entre le locuteur et l'auditeur. Vous voyez que dès 1885, Wegener fait la même critique que celle qu'adressera ensuite Bühler dans la crise de la psychologie. Pardon, excusez-moi. Il faudra que je me réentraîne en faisant un peu d'orthophonie. Les grandes thèses de Wegener et leur articulation interne. Dans son ouvrage, Wegener se détourne volontairement, comme je l'ai dit, de l'histoire de la langue pour orienter, je cite, « toutes les précautions méthodologiques vers l'interaction de l'énonciation et de la compréhension, l'interaction de l'énonciation et la compréhension de l'énoncé ». Ce type d'analyse a eu plusieurs conséquences importantes qui s'enchaînent les unes aux autres et qui permettent à son auteur, premièrement, de proposer une théorie de la situation, souvent appelée expositione, fondée sur la situation de parole et les références partagées par locuteur et auditeur. Je passe les références aux pages, vous les aurez dans mon texte par la suite. À cet égard, il constate que la signification d'un mot n'est concordante ni auprès d'individus différents, ni auprès du même individu à des moments différents. Le paradoxe, c'est que ce soit Hermann Paul, qui représente plutôt la psychologie individuelle et non la psychologie sociale, Völkerpsychologie, comme Wundt, qui retienne l'importance de la situation concrète de l'acte de parole reliant locuteur et auditeur. Deuxièmement, Wegener il a découvert la différence entre forme et fonction, ou plus exactement la différence à faire entre sens littéral et fonction contextuelle. Il faut bien faire attention au sens qu'il donne au mot fonction, qui ajoute un surplus de sens par l'intention du locuteur et le contexte situationnel. C'est une position, c'est une découverte qui sera reprise ou redécouverte beaucoup plus tard par Oswald Ducrot. Un passage de l'article posthume de 1920 est révélateur. Je cite « Comme c'est la fonction de toute énonciation de déclencher une certaine signification, c'est-à-dire contenu de représentation, chez l'auditeur, on peut appeler ce déclenchement d'une signification sa fonction. Dans certains cas, il peut y avoir incongruence entre l'expression langagière et sa signification étymologique ou littérale d'un côté, sa fonction de l'autre. Troisième découverte importante, à partir de là, il jette les prémices d'une théorie des actes de langage qu'il étudie plus spécifiquement sur des expressions prenant en compte la fonction injonctive. Bon, c'est peut-être la plus directe, la plus facile à étudier. Cette théorie sera exploitée une cinquantaine d'années plus tard par Alan Gardiner et développée ensuite par la philosophie analytique anglaise, anglo-saxonne, Austin, Searle, etc. L'ouvrage d'Alan Gardner. Il faut rappeler qu'Alan Gardner, qui vivait de la fortune de son père, on ne peut plus se permettre ces choses-là à notre époque, est un égyptologue très connu pour ses nombreuses recherches et ses publications. C'est d'ailleurs en écrivant une grammaire de l'égyptien, en 1927, qu'il a découvert les problèmes posés par la description des langues et du langage. Alors, il a été profondément déçu par l'ensemble des grammairiens consultés en cherchant à définir les mots essentiels de la grammaire, les mots les plus simples. Et il nous dit qu'il trouve enfin un souffle nouveau à la lecture de Wegener, notamment pour les définitions de sujet et prédicat. Je cite Catherine Douet. La première fois que j'ai lu l'explication si simple de Wegener, le prédicat existe pour l'auditeur et le sujet pour le locuteur, j'ai eu l'impression d'aspirer une bouffée d'air frais au sortir d'une salle de classe où j'étouffais. Cette déclaration a été faite au cours d'une conférence donnée en 1952. Cet enthousiasme initial ne faiblira pas tout au long de la lecture de l'ouvrage de Wegener qui offrira à Gardiner sa source essentielle d'inspiration. Quelle est la méthode mise en place par Gardiner? Son objectif est de proposer une étude empirique approfondie d'un acte de langage dans les conditions mêmes de sa production. Ces deux modèles directs sont d'une part Wegener, qui a l'immense mérite d'avoir élaboré, comme je l'ai dit, en premier une théorie de la situation, et d'autre part, Bronislaw Malinowski, anthropologue polonais, écrivant en anglais, qui condamne ceux qu'il appelle les philosophes de cabinet, n'étudiant le langage que par le truchement de l'écrit et des langues mortes, alors qu'il s'agit de privilégier une étude in vivo, appréhendant, je cite, « les discours vivants dans le contexte de leur situation réelle ». Pour sa part, Gardiner, l'égyptologue, choisit d'illustrer ses analyses par l'anglais en raison d'un paramètre essentiel pour lui, c'est l'affectif, le point de vue affectif. Et on voit que dans son compte-rendu négatif, Antoine Meillet est loin du compte, lui qui lui reproche de ne pas s'être servi de l'égyptien. Comme on est en droit de s'y attendre, Gardiner s'inscrit dans la ligne tracée par Wegener en concevant le discours comme une sorte de coproduction entre locuteur et auditeur, dans laquelle l'interaction constante met en jeu quatre facteurs, locuteur, auditeur, unis dans l'interlocution. Les mots véhiculent indispensable du sens et les choses signifiées, hein, en anglais « think, meant », au service de la représentation. Quels sont les principaux résultats obtenus par Gardiner? On peut dresser un premier bilan à ce sommaire de ces résultats. Tout d'abord, la notion de situation. Pour compléter cette notion de Wegener, Gardiner se propose de découvrir l'intention, qui était certes déjà présente chez Wegener et qui est une des composantes de la situation au sens large. Celle-ci contribue en effet à l'identification de la chose signifiée, hein, think, think, meant en anglais, et permet aussi de combler les vides laissés inévitablement par les mots en ce qui concerne tout ce qu'on appelle l'information d'arrière-plan. Les notions de sens et de signification. Gardiner conçoit l'attribution du sens comme un processus se déroulant en deux étapes. La première permet de dégager le sens proprement dit, meaning, au sein de ce qu'il dénomme une aire de sens. Et la seconde concerne la signification ou chose signifiée, appelée référence chez Ogden et Richards. Il saute aux yeux que cette conception n'est pas très éloignée de celle de Frege, qui, dès 1892, dans un article programmatique intitulé « Über Sinn und Bedeutung », hein, qui est très connu, hein, « Sens et référence », il ne faut pas traduire par « dénotation », introduisait, entre autres, hein, cet article est beaucoup plus riche, je l'ai analysé très en détail à plusieurs reprises, introduisait la distinction célèbre entre sens et référence. Sinn, Bedeutung. la notion d'intentionnalité. Pour Gardner, comme pour Wegener, dire équivaut en fait à vouloir dire. Ainsi, une phrase est un mot ou un groupe de mots révélant une intention intelligible. Gardner distingue notamment, pour une phrase, entre son contenu locutif et ce qu'il appelle sa qualité particulière, c'est-à-dire, je cite, le caractère d'une phrase qui révèle l'intention spécifique du locuteur. Cette analyse anticipe sur la distinction que nous rencontrerons plus tard chez Austin entre le contenu locutif ou locutoire et la force illocutive ou illocutoire. En d'autres termes, si les mots d'une phrase se contentent apparemment de décrire l'état de choses, Sachverhalt, Gardner connaissait très bien l'allemand, il avait vécu à Berlin. En revanche, l'identification de la fonction phrastique met en jeu un processus que Gardner définit ainsi, je cite, « la totalité de la situation, y compris la nature de la chose à laquelle les mots font référence, doit être prise en compte pour déterminer la qualité phrastique et l'interprétation de l'auditeur repose toujours sur un raisonnement. » Donc, vous voyez qu'il y a une participation déductive de l'interlocuteur. J'en arrive à ma troisième partie, les positions de Bühler par rapport aux thèses de ses prédécesseurs. Si l'orientation générale de Bühler est commune avec celle de quelques-uns de ses prédécesseurs, il a infléchi beaucoup de leurs thèses dans un sens très personnel, de manière à les faire concorder avec ses propres choix théoriques. Comme je l'ai déjà dit, l'objectif principal de Bühler a consisté en grande partie à recentrer, à rééquilibrer les différents secteurs de la linguistique. Premier point, un accord fondamental. Comme ses prédécesseurs, Bühler est profondément insatisfait des deux approches qui caractérisent la linguistique à son époque, qu'il s'agisse de l'approche historique, chère aux néo-grammairiens, ou de l'approche non historique qui commençait à s'élaborer, notamment à la suite de Saussure. Les deux courants en question méconnaissent à son sentiment, comme à celui de Wegener et de Gardner, l'aspect le plus important dans le phénomène de la communication verbale. Pour eux, en effet, il y a deux principes incontournables. D'abord, le fait que le langage appartient globalement au comportement humain, et à cet égard, le psychologue Bühler est bien placé pour émettre ce jugement, et par conséquent, l'exercice de la parole est aussi une forme d'action. L'ethnologue Malinowski, dont j'ai déjà parlé, avait déjà fait des observations qui allaient tout à fait dans le même sens. Bühler et les idées de son époque. Dans un certain nombre de cas majeurs et non sur des questions mineures, Bühler n'a pas hésité à présenter sa propre vision théorique, soit en réussissant à faire des synthèses entre des conceptions qui semblaient a priori antagoniste, soit en introduisant des améliorations, soit encore en injectant purement et simplement dans sa théorie des idées entièrement nouvelles. Nous ne pourrons naturellement pas être exhaustifs sur tous ces points, mais nous choisirons quelques exemples frappants de cette démarche. Tout d'abord, la réalisation de synthèses. C'est certainement le procédé qui avait les faveurs de Bühler. Et il a cherché à l'étendre au maximum, n'hésitant pas à tenter et à réussir des synthèses, parfois hardies, entre des conceptions anciennes et modernes ou entre des auteurs aux idées nettement opposées. Un premier exemple est fourni par les analyses qui figurent sous les schémas 2 et 3 de Bühler. Alors, Le schéma 2 de Bühler indique une source de stimulation qui est reprise ensuite comme stimulation intermédiaire, etc. Enfin, c'est un schéma qui est assez connu. Son schéma est incontestablement de nature behavioriste, car il est fondé sur la relation binaire stimulus-réponse. Le behaviorisme en linguistique, on peut considérer qu'il a duré au moins jusqu'en 1933 pour la publication de l'ouvrage « Language » de Leonard Bloomfield, dans lequel, je le rappelle, le sens est encore décrit comme une réaction purement comportementale. Je vous renvoie à la célèbre fable, entre guillemets, « Jack, Jill et la pomme ». Mais Bühler intègre parfaitement ce schéma behavioriste, réinterprété comme un enchaînement causal, dans son schéma à trois fondements, qui est celui de l'organon et qui est d'origine platonicienne. C'est la figure 3 dans le texte même de Bühler. J'aurais évidemment, ça aurait été mieux si j'avais eu un petit exemplier. Ce schéma de Bühler avec les trois fondements provient en fin de compte de Platon qui, dans le Cratyle, a conçu la langue comme un instrument pour que l'un puisse transmettre à un autre un message sur les choses. L'un, l'autre, les choses. Bon, c'est un modèle très connu. J'ai retrouvé le passage chez Platon. Le schéma a trois fondements. Se situe dans le prolongement direct des schémas ci-dessus et il offre le meilleur exemple, je pense, dans sa cohérence interne du synthèse réussi. Bühler a réussi à marier, d'une part, la notion d'annonce, Kundgabe, chez Wundt, la notion de fonction, Funktion, chez Wegener, pour lequel le caractère impératif et exigeant du dit ou de l'énoncé, du dictum ou de l'énoncé est l'élément central, sans parler de la notion de déclenchement, Auslösung, que nous rencontrons chez Anton Marti. Ces deux dimensions, ces deux axes sont bien présents chez Bühler, mais ils sont placés sous le contrôle de la fonction objective de représentation, Darstellung, hein, qui est dominante chez Bühler, comme le montre sans ambiguïté le sous-titre de son ouvrage. En d'autres termes, ces trois fonctions sont ordonnées et hiérarchisées entre elles. C'est par la relation d'interlocution, locuteur-auditeur, ou d'intersubjectivité, qui exerce son propre contrôle sur l'échange communicatif, que le langage peut accéder à la fonction objective de représentation. Cette fonction de représentation est définie dans un passage capital de la Sprachtheorie. Je cite « La langue ne peint pas dans la mesure où cela serait possible grâce aux ressources de la voix humaine, mais elle symbolise. Les mots dénominatifs sont des symboles pour les objets. » Le troisième exemple que je prendrai est celui de la conception générale du langage. Bühler partage avec Wegener et avec Gardiner la conception du langage comme action. Mais, contrairement à eux, lui, le tenant de la psychologie de la pensée, il ne peut nullement s'associer au rejet du langage comme manifestation de la pensée. Les deux conceptions ne semblent pas être antinomiques chez Bühler, car elles n'appartiennent pas du tout au même plan. Lorsqu'il emploie en effet l'expression « Analyse des Sprechdenkens », cela signifie clairement que la pensée opérative gère et conduit le fil de la parole, qu'il s'agisse de pensée spéculative ou de pensée action. Et cela est uniquement du ressort du type d'acte de langage qui est en cause. Je voudrais maintenant examiner un certain nombre de distinctions fines qui ont été faites par Bühler autour du mot « Feld », champ. À différence de ses prédécesseurs, il introduit des distinctions décisives. Je suis en train d'essayer de résumer ma pensée en même temps. Et il est utile de revenir sur plusieurs de ces termes apparemment proches qui pourraient paraître plus ou moins équivalents à un non-spécialiste. Il faut d'abord distinguer entre « situation » et « contexte ».« Situation », c'est un mot qu'il emploie relativement peu. Et « contexte », eh bien, c'est ni plus ni moins le contexte au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire le contexte verbal. Moi, je dépasserai, je crois, parce que j'ai un sujet. J'en avais parlé à un collègue. Alors, situation et contexte, nous dit-il, sont grosso modo les deux sources auxquelles s'alimente, au cas par cas, l'interprétation précise des énonciations linguistiques. Examinons le mot « Feld » et ses dérivés. La notion de Feld, telle qu'elle figure dans les expressions Zeigfeld, champ monstratif, Symbolfeld, champ symbolique, est liée à une notion large de ce mot qui venait d'être conceptualisée par un Allemand, Kurt Lewin, professeur à Berlin, qui a publié un ouvrage avant de son départ aux États-Unis, dans lequel il définit la théorie du champ par le constat que le comportement humain est la fonction liée à la fois à la personne et à l'environnement, ce qu'il symbolise par une formule tout à fait simple, behavior égale fonction de P, de la personne, et de E, l'environnement. Appliquée à la langue, cette théorie du champ explique, à mon sens, de manière très simple, la dichotomie proposée par Bühler entre deux types de champs. D'un côté, le secteur de la personne et de ses coordonnées spatio-temporelles, ce qui relève des déictiques, et de l'autre, le champ de l'environnement, appelé Symbolfeld, des choses extérieures. Que penser de Umfeld ? Cet emploi nous semble beaucoup plus restreint que le précédent et Bühler lui-même nous aide à déterminer l'origine du mot et de la notion. Il dit ceci, l'expression est la notion de champ environnant, Umfeld, hein, Um signifie autour, telles qu'elles sont employées ici, viennent de la doctrine des couleurs. Il est utile de rappeler qu'il avait soutenu en 1903, à Fribourg, une thèse de médecine précisément sur la physiologie de la vision des couleurs. Donc, c'était une de ses spécialités aussi. La moindre petite tache colorée sur une surface donne l'impression d'être influencée par le champ environnant de la tache. L'influence du champ interne, ce qu'il appelle « Infeld », et du champ, je traduis par opposition, « externe », est-il besoin de le préciser réciproque ? Cette découverte fut étendue, je continue la citation, et transposée à beaucoup d'autres domaines dans la perspective holistique à laquelle on attribue aujourd'hui sommairement l'étiquette Gestalt, psychologie. Psychologie de la forme. Et il ajoute, il n'est pas nécessaire de prouver à un spécialiste que l'Umfeld le plus important d'un signe linguistique est son contexte. Mais il faut se garder d'assimiler Umfeld trop rapidement à contexte. Bühler nous met en garde, il existe des cas d'absence de contexte, mais nullement des cas d'absence d'Umfeld. Et Bühler de préciser aussitôt qu'il existe trois types différents d'Umfeld qui sont des propriétés spécifiques attachées aux unités du champ symbolique, variables selon les circonstances de leur occurrence et l'identification contextuelle de ces unités. Premièrement, il y a d'abord ce que Bühler appelle das sympraktische Umfeld, le champ environnant lié aux pratiques usuelles. Ce champ fait appel à l'ensemble des pratiques de l'homme nées des conventions instituées par l'usage et il permet de décoder et de comprendre des dénominations en usage, hein, c'est l'expression de Bühler, im Praktischenennungen, comme par exemple quand quelqu'un dit un noir ou une bien fraîche dans un café. Deuxièmement, Bühler fait appel à das physische Umfeld, le champ environnant lié aux conditions physiques d'usage, pour expliquer les noms employés sans contexte, c'est-à-dire en l'absence d'un continuum linguistique, comme c'est le cas pour les expressions qui figurent sur les étiquettes, les monuments, les panneaux de tout genre, les poteaux indicateurs, etc. Il existe enfin pour Bühler das synsemantische Umfeld, le champ environnant lié aux sémantiques. C'est le plus complexe sans doute et le plus hétérogène des trois. Il peut se référer à l'intonation, les mimiques, les gestes, la musique, les couleurs, etc. Alors, quelle est l'organisation de l'ouvrage? Il y a deux parties centrales. Le champ monstratif et, deuxièmement, le champ symbolique. Et ces deux parties centrales déterminantes sont encadrées par deux autres parties. Une partie initiale qui est consacrée à une axiomatique. Bühler confie le découpage de la discipline à une axiomatique fondée sur quatre axiomes, mais il n'exclut pas la possibilité d'une axiomatique plus développée. Elle démontre si besoin en était sa filiation à Aristote et à Kant, alors que pour Saussure, c'est la langue elle-même qui est le principe classificateur. Je rappelle ici les paroles bien connues que l'on trouve dans le CLG. La langue, au contraire, est un tout en soi et un principe de classification. Dès que nous lui donnons la première place parmi les faits de langage, nous introduisons un ordre naturel dans un ensemble qui ne se prête à aucune autre classification. On peut se demander si, finalement, ce n'est pas la même approche entre Saussure et Bühler. En d'autres termes, si les axiomes de Bühler ne sont pas, au fond et dans leur objectif, très proches de ce que Saussure appelait les points de vue. Alors, la partie finale est consacrée au discours. Et c'est incontestablement la partie la plus syntaxique. J'aurais voulu vous parler aussi de l'influence des principes de Bühler, le schéma à trois fondements, la pertinence communicative, le dogme du lexique et de la syntaxe, hein, où il se défend, il revendique la paternité par rapport à Carnap, et vous savez qu'à une époque beaucoup plus récente, Martinet et Benveniste se sont déchirés à propos de cette découverte, entre guillemets. Le principe de la production infinie. Alors, y a-t-il quelques insuffisances chez Bühler qui seraient dues soit à l'époque, soit à une analyse défectueuse? À mon avis, l'insuffisance la plus importante et la plus dommageable concerne l'absence de segmentation du mot, certainement parce qu'il est conçu comme une unité de sens, donc indivisible. Ensuite, il y a une conséquence directe de cette non-segmentation de segmentation du mot, c'est l'obligation d'avoir conservé les classes de mots et la transformation de classe, Klassenverwandlung, et bien sûr l'omission des marques verbales de temps pour la théorie de la DX6. Il y a aussi, on peut relever une erreur, j'en avais parlé dans mon résumé, lorsque Bühler, s'appuyant sur Edward Herrmann, un néogrammairien, dit que l'indo-européen ancien n'a connu ni relatif ni conjonction de subordination. C'est un peu, enfin, ça ne tient pas. J'ai écrit ma thèse d'état de 1500 pages précisément sur l'énoncé complexe dans les langues indo-européennes anciennes. Donc je suis à même de vous en parler. Alors je conclurai. Cet exposé n'avait pas la prétention d'être objectif, d'être, si, exhaustif, pardon. Oh, on n'est jamais totalement objectif, hein, non plus. Il faut bien le reconnaître. Tant la matière à maîtriser et à traiter est vaste et parfois déconcertante. La force et, aussi la faiblesse de la théorie construite par Bühler ont la même origine. Il essaye de reprendre, outre ses propres recherches, des acquis importants rencontrés chez d'autres auteurs, appartenant à des époques, à des spécialités différentes, à des courants de pensée fort éloignés, ce qui complique bien évidemment sa tâche. Il faut surtout éviter de juger du bien fondé et de l'équilibre interne de la théorie de Bühler à partir d'une sorte de norme, que ce soit la norme phénoménologique d'un Husserl, ou même celle que j'ai développée ici, pragmatique à partir d'un Wegener ou d'un Gardner. Car cette manière de procéder fausse nécessairement le jugement global et il est dommage pour la postérité de la Sprachtheorie que ces précautions de bon sens n'aient pas toujours été respectées. Merci.